RFI midi, midi et demi en temps universel, 13h30 à Paris, c'est l'heure de retrouver Afrique Midi, présenté par Fabien Albert. Bonjour Fabien.
Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous. À la une d'Afrique Midi ce samedi, la présidentielle en Côte d'Ivoire dans un peu moins d'un an. Ce week-end, le FPI désigne celui qui représentera les couleurs du parti lors d'un congrès à Yamoussoukro. Nous serons sur place en direct dès le début de cette édition. Le Soudan du Sud, touché par des inondations monstres, au moins 1 500 000 personnes ont été touchées selon l'ONU. Nations Unies principalement inquiètes des répercussions sanitaires de la catastrophe. L'état de siège prorogé pour la 85e fois en République démocratique du Congo pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Reconduction malgré des critiques de la part des députés. Jour de vote ce dimanche sur l'île Maurice. Plus d'un million d'électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives. En Guinée, le Conseil national de transition a lancé sa tournée pour expliquer les grandes lignes de la future constitution. Du sport à venir également dans Afrique Midi avec le coup d'envoi de la Ligue des Championnes d'Afrique. Et puis de la culture avec la star sénégalaise Baba Mal en concert ce soir à Paris. Un peu moins d'un an avant la présidentielle, le Front populaire ivoirien est réuni en congrès à Yamoussoukro depuis hier. Ce soir, à l'issue de ce 5e congrès ordinaire, le FPI va désigner son candidat. Pascal Affine Guessan, candidat à sa propre succession à la tête du parti, est donné favori. Abdoulaziz Diallo, vous êtes notre envoyé spécial sur place dans la capitale politique ivoirienne. Comment se déroule cette dernière journée du congrès ?
Les travaux ont repris il y a moins d'une demi-heure. Nous avons laissé les congressistes se reposer, nous explique un des organisateurs, car les activités de la première journée se sont prolongées jusqu'à environ 4 heures du matin. La première étape de cette journée sera consacrée donc à l'élection du président du parti. Deux candidats sont en lice, Pascal Affine Guessan et l'avocat Pierre Dagbo Godé, qui n'est pas présent. Il est suspendu des instances du FPI pour ses critiques envers la direction actuelle. Les membres du FPI entendront d'abord le discours du candidat avant de voter un à un dans des isoloirs installés dans la salle. La désignation du candidat qui représentera donc le parti lors de la présidentielle de 2025 est également attendue aujourd'hui, vous l'avez dit. Ce choix devrait se faire par acclamation et tout laisse à penser que ce sera Pascal Affine Guessan.
Et ce congrès se déroule dans un climat de tensions internes avec un courant dissident.
Effectivement, une dissidence s'est formée au sein du FPI il y a environ 2 semaines. 2 événements majeurs ont conduit à cette fracture. Le soutien de certains membres à l'appel au rassemblement de l'opposition lancé par Laurent Gbagbo, souvenez-vous, le 14 juillet dernier, et la rupture en septembre dernier du partenariat avec le RHDP. L'avocat Pierre Dagbo Godé, figure de cette dissidence, a porté l'affaire en justice, mais pour l'heure, la justice ivoirienne n'a pas encore statué sur les différends internes au parti. Barthélémy Hérier Niépa, nouveau secrétaire général du FPI, assure toutefois que ces tensions n'ont aucun impact sur le fonctionnement de la formation politique. Rappelons qu'hier, à l'ouverture du congrès, Pascal Affine Guessan a appelé le président ivoirien Alassane Ouattara à renoncer à toute tentative de candidature pour 2025 parce que cela pourrait plonger notre pays dans une nouvelle crise, des propos qu'il a fermement tenus devant ses militants.
Merci Abdoulaziz Diallo, envoyé spécial à Yamoussoukro en direct dans ce journal. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Soudan du Sud. Près d'1 500 000 personnes ont été touchées, des inondations impressionnantes. Bilan largement revu à la hausse par l'OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
C'est le nord du pays qui est le plus durement touché, notamment dans la région disputée avec le Soudan, ce qui fait craindre des conséquences sanitaires encore plus lourdes.
Oui, le dernier bulletin sur le Soudan du Sud publié par l'OCHA fait état d'une situation qui se détériore. Le précédent, publié il y a un mois, recensait 900 000 personnes affectées par les inondations, bilan qui passe désormais à 1 400 000 avec ces chiffres réactualisés. Parmi elles, 379 000 ont dû fuir leur habitation. C'est principalement tout le nord du pays qui est concerné. On mentionne le comté de Fangak où plus de 200 000 personnes ont directement été touchées. Comté, par ailleurs, refuge de nombreux déplacés qui ont fui les combats dans d'autres régions du pays, notamment ceux en provenance de la frontière dans la zone disputée avec le Soudan. Aux conséquences humaines et matérielles directes de ces inondations, il faut également évidemment ajouter les conséquences sanitaires, vous le disiez. Le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies s'inquiète en effet d'une recrudescence des cas de paludisme dans tout le nord du pays. Selon l'OCHA, les infrastructures de santé sont d'ores et déjà dépassées, ce qui amplifie encore plus la lourdeur du bilan des pluies et des crues.
Simon Rosé en direct dans ce journal. Merci Simon. Le ton monte entre le Tchad et le Soudan. N'Djamena accuse son voisin de déstabilisation. Depuis le début de la guerre civile soudanaise, Khartoum accuse N'Djamena de livrer des armes au FSR via son allié, les Émirats Arabes Unis. Des accusations rejetées par les autorités tchadiennes qui pointent du doigt à leur tour la responsabilité du Soudan dans le financement et l'armement des groupes terroristes opérant dans la sous-région dans le but de déstabiliser le Tchad. L'état de siège de nouveau prorogé par l'Assemblée nationale en Ituri et au Nord Kivu, une mesure exceptionnelle instaurée depuis mai 2021 dans ces deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle devait initialement servir pour éradiquer les groupes armés. Ce régime spécial a donc été reconduit pour la 85e fois, mais avec une critique majeure de l'Assemblée nationale. Les députés se sont indignés face à ce renouvellement sans avancée concrète. Ils n'ont pas caché leur exaspération devant l'absence de résultats significatifs alors que la violence persiste. Correspondance à Kinshasa de Patient Ligodi.
Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sujet de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il a plaidé pour que le président reçoive en audience les députés issus des provinces concernées afin qu'ils partagent directement leurs informations et leurs préoccupations. D'après Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi a donné son accord pour cette rencontre, bien qu'aucune date n'ait encore été fixée. En parallèle, les députés ont décidé de mener leur propre évaluation de l'état de siège. Une séance à huis clos sera organisée avec la participation des gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que des vice-premiers ministres chargés de la défense et de l'intérieur. De son côté, la première ministre Judith Suminwa a également prévu une évaluation avant la fin du mois. Une mission de travail dans les deux provinces est envisagée autour du 21 novembre. Cependant, Vital Kamerhe insiste pour que cette évaluation soit menée en toute transparence avec le Parlement. En août 2023, des personnalités politiques et des membres de la société civile avaient déjà appelé à la levée de cette mesure et demandé au gouvernement de rétablir les institutions civiles tout en renforçant les opérations militaires de grande envergure dans la région. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
De son côté, Amnesty International dénonce une utilisation de l'état de siège pour réprimer les voix dissidentes. Même son de cloche pour Human Rights Watch qui a rapporté des arrestations de défenseurs des droits humains. RFI, il est 16h37 à Port-Louis, Île-Maurice, où l'on vote demain pour les élections législatives. Plus d'un million d'électeurs sont appelés à élire un nouveau gouvernement à l'issue d'une campagne marquée par des événements inédits. Une campagne qui s'est achevée hier soir et ce samedi, veille d'élection, c'est silence électoral. Campagne marquée par la reconnaissance britannique de la souveraineté mauricienne sur l'archipel des îles Chagos, un thème sur lequel le Premier ministre sortant comptait surfer avant d'être rattrapé par les attentes des Mauriciennes et Mauriciens sur le pouvoir d'achat, l'insécurité ou encore le trafic de drogue. Correspondance à Port-Louis d'Abdoulaye Rali.
Le gouvernement a convoqué des élections législatives le 4 octobre dernier, au lendemain d'une annonce historique. Londres a en effet reconnu la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos. Le Premier ministre de Maurice comptait s'appuyer sur cette avancée diplomatique pour renforcer sa position. Cependant, ce succès n'a pas eu l'impact escompté sur la campagne électorale. Les électeurs semblent davantage préoccupés par des enjeux concrets comme le pouvoir d'achat, la lutte contre la drogue et l'insécurité. Par ailleurs, des événements inédits ont marqué cette campagne. La révélation d'un programme d'écoute téléphonique a notamment choqué l'opinion publique. Les enregistrements de conversations sensibles diffusés par un informateur anonyme sur les réseaux sociaux ont été suivis comme un véritable feuilleton. Cette affaire a notamment mis en lumière l'implication de l'épouse du Premier ministre dans les institutions et les affaires nationales. Cet épisode controversé aura-t-il un impact dans les urnes demain? La réponse sera connue lundi lors du dépouillement des votes. Abdoulah Erali, Port-Louis, RFI.
Une tournée en Guinée pour vulgariser l'avant-projet de constitution à la population. Elle a été lancée ce jeudi par le Conseil national de transition pour expliquer les grandes lignes de la future constitution dont une première mouture a été présentée cet été. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, s'était d'ailleurs engagé à organiser un référendum avant la fin de l'année. Mais aucune date n'a été fixée pour l'heure. Certains partis politiques voient donc ici une nouvelle manœuvre de la junte pour conserver le pouvoir, Sidi Yansané.
Lancé en grande pompe sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry, en présence de membres du gouvernement et du cabinet de la présidence, la campagne de vulgarisation est censée rassembler les populations guinéennes afin qu'elles participent également à la conception de leur future loi fondamentale. Toujours bloquée au stade de l'avant-projet, cette nouvelle constitution a pourtant déjà été présentée, défendue et expliquée par Dansa Kuruma lui-même, président du Conseil national de transition, qui a tenu plusieurs ateliers en Guinée et à l'étranger. Pour Souleymane Souza Konaté, chargé de communication de la coalition politique d'opposition ANAD, le CNT fait du surplace. Il ajoute que toutes les activités menant au retour à l'ordre constitutionnel sont reléguées au calende grec et que cet avant-projet ne sert qu'à autoriser le général Mamadi Doumbouya et la junte du CNRD à confisquer le pouvoir. En septembre dernier, le président du CNT affirmait sur France 24 que le nouveau texte remplissait toutes les conditions pour être soumis à un référendum transparent et inclusif. Mais à moins de 2 mois du 31 décembre, il reste encore le recensement de la population à effectuer et le fichier électoral à confectionner.
Les précisions de Sidi Ansani. Une page sport sur le continent à présent, d'abord avec le coup d'envoi aujourd'hui de la Ligue des Championnes d'Afrique. La compétition opposera jusqu'au 23 novembre les 8 meilleures équipes du continent, parmi elles des visages nouveaux, ceux des Aigles de la Médina notamment. Le club sénégalais est le premier de son pays à se hisser à ce niveau de la compétition, Mathias Reynal.
Je vous remercie d'accueillir.
En conférence de presse, on sent encore un peu de timidité. Mais les Aigles ne sont pas venus faire de la figuration. Sadigatou Diallo, milieu de terrain.
L'équipe est sereine. On est très excités à l'idée de participer à cette très grande compétition. Après la pression, je vais dire, on ne peut pas s'en passer. Ça dépend de la manière dont on va la gérer. Dans le groupe, il y a des joueuses expérimentées, même s'il y a beaucoup de jeunes joueuses. Certaines vont tirer les autres et vont aider les autres joueuses à pouvoir un peu se détacher de cette pression-là.
Le premier match sera déterminant face à l'AS Far, vainqueur de la compétition en 2022 et qui jouera à domicile. La coach Bayang Thiam.
Nous, on s'est préparé mentalement pour pouvoir surmonter cette épreuve si ça sera en défaveur de notre côté. Donc, on est prêt pour jouer avec le public, pour jouer avec toutes les contraintes possibles.
Dans le souk sénégalais de la Médina de Casablanca, la diaspora se prépare à soutenir les Aigles, comme Mouktar, 28 ans.
Vu qu'il y a une certaine communauté, on va faire un très grand rassemblement pour suivre les Sénégalais et leur supporter et faire de tout notre mieux pour qu'ils remportent la Ligue des Champions.
AS Far versus les Aigles de la Médina, le match est à suivre à partir de 17h en temps universel. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Mais le coup d'envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar n'est pas pour tout de suite lui, mais il se rapproche, c'est dans un peu moins de 2 ans. Afin de préparer au mieux l'événement, une délégation du CIO, le Comité International Olympique, était dans la capitale sénégalaise ces derniers jours. Délégation plutôt satisfaite pour le moment de l'organisation, Gwendal Lavina.
La commission annuelle de coordination a duré 2 jours et se termine sous les meilleurs auspices. Les représentants du CIO ont multiplié les rencontres et les visites des sites qui accueilleront les épreuves. Nawal El Moutawakel, vice-présidente du CIO et membre de la commission de coordination des JOJ 2026, ne cache pas sa satisfaction.
Nous sommes heureux de voir que le comité d'organisation local est sur une très très bonne trajectoire.
Elle a aussi listé les nombreux autres éléments sur lesquels il faudra désormais travailler.
Tout va devenir concret avec, dans les prochains mois, le lancement du programme des volontaires, de la billetterie, la présentation du poster officiel et la chanson officielle, ainsi que la médaille, la mascotte, les uniformes, le relais de la flamme. Et j'ai l'impression que nous y sommes presque.
Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, insiste Ibrahim Awad, coordinateur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.
Ça fait plaisir, mais c'est à la fois aussi un motif d'encouragement à aller encore plus de l'avant, à continuer dans la dynamique, à poursuivre le travail, mais surtout à accélérer, parce que nous sommes maintenant en plein dans le processus qui nous mènera vraiment à la livraison des Jeux.
Une dernière ligne droite qui verra aussi s'étoffer les équipes de Dakar 2026. Elles passeront de 77 personnes actuellement à plus de 330 dans les prochains mois. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Une jeunesse sénégalaise pour la plupart influencée par les textes de Baba Mal. Le chanteur, auteur et compositeur sénégalais de 71 ans est en concert ce soir à Paris. Celui qui fait la promotion de la culture Purple à travers sa musique partout dans le monde, a aussi participé à la création de la bande originale de Black Panther en 2018 en tant que co-auteur et interprète. Il est aussi ambassadeur des Nations Unies dans la lutte contre la désertification. Pour Bab Amal, ce concert à Paris est donc l'occasion de réaffirmer son engagement et d'aborder avec le public les thématiques qui lui tiennent à cœur, comme la protection de l'environnement, que Penaï Traoré.
La particularité de cette soirée, c'est que j'aimerais bien discuter avec tous ceux qui viendront nous voir. Je vais à Riyad pour le sommet sur la désertification. Et j'aimerais bien recueillir de la part de tous ces jeunes, de tous ces mélomanes, quelles sont les idées, à quoi ils s'attendent que Bab Amal fasse un plaidoyer pour améliorer les conditions de vie. Parle de notre engagement. Quand on parle de désertification, il y a des chansons qu'il faut vraiment promouvoir. Je ne sais pas si vous avez dans votre répertoire ici à RFI l'Eki, qui veut dire l'arbre, qui parle de la protection de l'environnement.
Et la musique est un meilleur moyen, selon vous, pour ces causes-là?
Ah oui, la musique, la culture, en tout cas sur le continent africain, parce que la culture est très proche, par exemple, de nos communautés. De plus en plus, les personnes comprennent, par exemple, les messages qui sont lancés. Et les gens se disent, bon, si Bab Amal le fait, je vais le faire. Si Bab Amal le dit, je vais le faire. Et ça, je pense, c'est assez important. Donc, chantons, dansons, mais parlons des choses qui nous interpellent.
Bab Amal en concert ce soir au Chalet du Lac à Paris. Ce sera à partir de 20h. Cette soirée est aussi le point de départ des célébrations des 40 ans de son orchestre, le Dandé Legnol. Radio France Internationale, vous écoutez Afrique Midi, il est 13h46 à Paris.
Afrique Midi, Fabien Albert.
À suivre dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'ouverture de la COP29, c'est pour lundi. Grande messe annuelle sur le climat organisée cette année à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Comme chaque année, le continent africain espère que ses revendications seront entendues, et les accords passés respectés. Donald Trump, élu 47e président des États-Unis, l'événement de la semaine avec le retour du républicain à la Maison-Blanche. Jean-Baptiste Placa vous en parle dans quelques minutes. À venir également, votre nouvelle chronique, un mot, une histoire, des amoureux de la langue française parle à Lucie Bouteloup d'un mot qui leur est cher. Et cap donc à présent sur la COP29, le grand rendez-vous annuel sur le climat s'ouvre ce lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Deux semaines de discussions, quelle place pour le continent africain, quels grands dossiers seront abordés, sur quoi cela peut-il déboucher? Jeune Afrique consacre plusieurs articles à cet événement. Clotilde Dumais fait le point avec le directeur de la rédaction François Soudan.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Clotilde.
Alors quelle place l'Afrique va-t-elle occuper dans cette nouvelle conférence des Nations Unies sur le climat?
Alors, une place importante si on s'attache à la participation, puisqu'une vingtaine de chefs d'État africains sont annoncés, que tous devraient y prendre la parole et qu'au moins deux événements parallèles seront consacrés au continent. L'un réunira les membres de ce qu'on appelle le C15, à l'initiative des présidents Sassou Nguesso, Ruto et Adesina Dlabad, autour d'une demande d'intégration de la valeur des ressources naturelles dans le calcul du PIB des États. Et l'autre concernera la préservation des tourbières du bassin du Congo, qui sont, comme on le sait, les premières tourbières tropicales au monde. Alors, de COP en COP, l'objectif général reste le même. Il s'agit pour l'Afrique de s'approprier son processus de transition verte plutôt que de le voir dicter l'extérieur. Il s'agit aussi d'imposer son propre narratif sur l'énergie. La sécurité énergétique, ce n'est pas que pour les riches. Il s'agit enfin de se voir attribuer des financements pour l'adaptation au changement climatique et à la transition énergétique. Et là, Clotilde, c'est une toute autre affaire.
Vous parlez justement de montants colossaux qui seront sur la table des négociations à Bakou. Est-ce que ces montants ont la moindre chance d'être débloqués?
Clairement non. Le montant total mobilisé par les pays développés en faveur des pays en développement pour la finance climat, c'est à peu près 120 milliards de dollars par an en ce moment. Or, les besoins sont évalués à 2400 milliards annuels d'ici à 2030, dont 1300 milliards rien que pour l'Afrique. On est donc très loin du compte. Alors, face à ce gouffre, les Européens, les Américains militent pour élargir la base des pays contributeurs liés par un accord contraignant à ceux qu'on appelle les nouveaux pollueurs, à commencer par le premier d'entre eux, la Chine, mais aussi l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Russie, etc. Le problème, c'est que le rapport des forces à la COP29 ne sera pas du tout en leur faveur. Les États-Unis viennent d'élire en Trump un président, comme on le sait, ouvertement climato-sceptique, et l'Europe sera en position de faiblesse du fait de la participation minimale de la France due aux relations exécrables entre Paris et Bakou. Et comme on imagine mal Clotilde, le groupe Afrique faire pression sur la Chine ou l'Arabie Saoudite, on peut déjà prévoir que si nouvel accord de financement il y a, il sera à minima.
On évoque souvent les crédits carbone comme étant l'une des clés du financement de l'adaptation et de la transition climatique en Afrique. Est-ce qu'on peut vraiment y croire ?
Ah, sur le papier, oui. Par exemple, la valeur de la compensation carbone du bassin du Congo est évaluée à 770 milliards de dollars par an, soit un tiers du PIB de tout le continent. Vous imaginez ce que ça représente. Cela dit, il y a trois obstacles. Un, les règles du marché carbone sont dictées par les pays riches. Le contrôle des pays africains sur la valeur de leur crédit est très faible. Deux, on a affaire à un marché volontaire du carbone qui a un problème de régulation, d'intégrité, de transparence, de fragmentation. Il y a aujourd'hui pas moins de 78 mécanismes de taxation de la tonne carbone différentes, laquelle est monétisée entre 6 et 100 dollars. Enfin, force est de constater que beaucoup de projets d'achat compensation de crédit carbone, et maintenant de grosses sociétés multinationales à l'œuvre sur le continent, relèvent du greenwashing sans impact notable sur la véritable reforestation et sur le captage du CO2. Conclusion, Cotide, il faut impérativement que les pays africains, en particulier ceux du bassin du Congo, se dotent chacun, sous le contrôle de leur ministère de l'Environnement respectif, d'une réglementation interne du marché du carbone, avec supervision de l'autorisation des projets, de leur conformité, gestion d'un registre national du carbone. Le Kenya s'est déjà engagé sur cette voie, les autres serait bien fondé à en discuter lors de cette COP29, Clotilde.
Merci beaucoup François Soudan. La COP29 et la place de l'Afrique dans cette conférence mondiale sur le climat, c'est à lire sur jeuneafrique.com.
Et place à présent à la semaine de Jean-Baptiste Placa. Jean-Baptiste, vous revenez évidemment sur l'événement marquant de ces derniers jours, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Un président qui ne s'est pas souvent distingué par la délicatesse des qualificatifs dont il use pour parler de l'Afrique notamment. Alors Jean-Baptiste, les Africains doivent-ils s'inquiéter de son retour à la Maison-Blanche ?
Seuls les Américains savent ce qui est le mieux pour leur pays. Ils l'ont élu, ils vont l'avoir. De par le monde, il en est qui s'en réjouissent en effet, mais il en est aussi qui s'apprête résigné à s'accommoder de la nouvelle donne à Washington avec un dirigeant prévisible pour le pire et le meilleur. Pour l'Afrique, cette élection n'aura aucune incidence déterminante, pas plus avec lui qu'avec Kamala Harris présidente. Le président des États-Unis gouverne pour les intérêts de son pays et de son peuple. Quant aux réflexions désobligeantes de Donald Trump, si elles font mal, c'est parce que le chef d'un tel État ne devrait pas parler de la sorte des autres. Nombre d'autres dirigeants pensent comme lui, mais ne le disent pas. Ou alors à l'abri des caméras et des micros. La question fondamentale n'est donc pas de savoir pourquoi certains pensent tant de mal des nations africaines et le chuchotent à huis clos, mais ce que doivent faire les Africains pour inspirer un peu plus de respect.
Et que doivent donc faire les Africains pour inspirer ce respect ?
Peut-être devraient-ils commencer par s'interroger sur la place de l'Afrique dans ce monde où l'on ne vous respecte que par rapport à ce que vous représentez et présentez comme intérêt. Où donc se pense aujourd'hui l'avenir de ce continent ? Quel leader pour piloter une stratégie panafricaine dense avec un chronogramme rigoureusement respecté ? Un continent sur lequel l'on fait silence partout où il est question de perspectives et de stratégies planétaires est un continent virtuellement perdu. Certes, quelques cercles de réflexion plus ou moins démunis analysent ici et là certains segments de la vie des nations, mais tout cela manque terriblement de moyens, de cohésion et de coordination. L'Afrique souffre d'un déficit chronique de dirigeants capables d'investir et de s'impliquer dans une réflexion d'avenir. Alors, chaque pays, chaque chef d'État s'agite dans ses limites géographiques étriquées pour des résultats aussitôt compromis par l'incohérence de tel ou tel de ses voisins, comme si le train du développement a jamais été bloqué, à quai, encore pire que ce que déplorait en 1962 le célèbre agronome René Dumont dans son ouvrage au titre finalement pas si violent « L'Afrique noire est mal partie ». Il faut se réinventer pour espérer se hisser durablement dans l'estime des nations.
Et croyez-vous, Jean-Baptiste, que cela suffira pour échapper aux propos désobligeants de certains?
Non, mais il faut au préalable ne plus prêter le flanc aux critiques faciles et parfois grossières. Ensuite, lorsque l'on scrute la prudence que met le même Trump à attaquer certains pays ou dirigeants, on comprend que certaines réalités lui imposent de la retenue. L'Afrique doit donc pouvoir peser véritablement dans l'économie mondiale pour compter. Avec toutes les ressources naturelles dont regorge son sous-sol et tant de minerais que combat la terre entière, elle ne peut persister à juste exporter les matières premières sans même faire des réalisations pour faire fructifier les revenus des dites ressources. Si Donald Trump évite certains qualificatifs trop discourtois lorsqu'il parle par exemple de la Chine, c'est parce qu'il ne peut se le permettre. Les Chinois détiennent une part, certes décroissante, mais toujours appréciable des près de 35 000 milliards de dollars de dettes américaines. Tout homme d'affaires lucide sait que l'on ne parle pas n'importe comment à ses créanciers ou à son banquier. L'équilibre de la terreur, jadis soutenu par la dissuasion nucléaire, a aujourd'hui un pendant économique et financier tout aussi efficace, les finances, la puissance économique. Là où les Chinois, jadis indexés comme une bombe démographique à retardement, sont de fait devenus actionnaires des États-Unis, l'Afrique doit-elle continuer à n'être qu'une spectatrice passive de son destin?
Merci Jean-Baptiste Placard. 13h56 à Paris, place à votre nouvelle chronique à présent, un mot, une histoire. Qu'est-ce que les mots qu'on aime disent de nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup.
Ce mot, alors moi je milite pour qu'il soit dans le dictionnaire, et de toute façon il va y arriver, parce que ça fait partie de ces mots français qui ont évolué, enfin les jeunes se sont appropriés tellement cette langue, et ce sont eux qui jouent avec le français et qui en font une poésie incroyable.
Ces personnages s'appellent Aya de Yopougon, Akissi ou l'inspecteur Kwame. Ils vivent à Abidjan et parlent un français relevé à la sauce nouchi, cette langue créée dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Une langue bien vivante, comme aime le rappeler celle qui s'est imposée comme l'une des auteurs à succès de la bande dessinée en France. Cette femme, c'est Marguerite Aboué. Je l'ai retrouvée chez elle, en banlieue parisienne, et elle a choisi de parler d'un mot qui lui ressemble.
Bonjour Lucie.
Bonjour Marguerite.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
J'aimerais vous parler du mot ambiancement, non seulement parce que je le trouve original, et je sais qu'il vient de ce fameux verbe inventé par les jeunes ivoiriens, s'ambiancer, qui vient aussi du mot français ambiance. Ambiancement, c'est l'art de faire la fête, de s'amuser, d'être toujours joyeux. C'est un comportement, c'est une manière de vivre. On est dans l'ambiancement comme on est dans la vie, parce qu'on prend tout du bon côté, avec légèreté. Et c'est un mot qui revient souvent en Côte d'Ivoire et qui a même traversé les frontières. Et on entend souvent ici en France, le nouchi, en tout cas une nouvelle génération, parle de ce mot avec délectation, dans un ambiancement totalement ambiancé. Quoi. Quand moi j'étais en Afrique, je connaissais le mot ambiance parce que justement mes parents écoutaient beaucoup la chanson qui parlait déjà de l'ambiance. Et c'est plus tard que les Ivoiriens ont décliné en s'ambiancer et ensuite ambiancement. Donc ambiancement, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai commencé à utiliser lorsque je suis retournée en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce que ce mot dit de vous, Marguerite Aboué?
Je pense que ce mot dit tout simplement toute cette double culture que j'ai en moi. Le fait d'être africaine, de culture européenne, française, ivoirienne. C'est moi, j'aime bien faire rire un peu les autres, mettre de la musique. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'on peut vraiment parler d'ambiancement, mais partout, même en courtisant une fille, même en étant avec un homme, on peut dire, mais on était dans notre ambiancement, on s'est ambiancé. Hein, et ambiancé, ça peut devenir aussi très érotique. On s'ambiance et...
On s'ambiance avec la langue, en fait.
On s'ambiance surtout avec la langue.
Le mot « ambiancement » n'apparaît dans aucun dictionnaire. Seul le verbe « ambiancer » y est répertorié depuis 2017. Selon le Petit Larousse, il désigne en Afrique le fait de mettre de l'ambiance de l'animation quelque part.
C'était Un mot, une histoire.
Votre nouvelle chronique, Un mot, une histoire de Lucie Bouteloup. Ainsi s'achève cette édition d'Afrique Midi. Merci à Benoît Raymond à la réalisation, Karine Franck à la rédaction, en chef Pierre Vallée, attaché de production. Votre prochain journal, c'est dans un peu plus de 30 secondes. Merci de rester fidèle à RFI.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Musique du monde rentre au couvent, enfin au monastère de Ségriès, où s'est tenue fin septembre une célébration œcuménique de la musique, une vingtaine d'artistes, 8 heures de concert, c'est la fameuse symphonie de Ségriès. Jeanne Lacaille s'est infiltrée dans cette résidence hors norme avec la complicité du Souffle Collectif et du vidéaste Vincent Moon, du son et du bon.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.